agis dans les pensées, agis dans chaque esprit ce matin. Visite-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Viens faire germer la foi dans les cœurs. Viens faire germer la guérison dans les corps. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Alors, dimanche dernier, donc, nous avons commencé à parler des chemins de la guérison divine. Et donc, en entrant à la maison, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de dire ce thème autrement. On a lu un passage dans Psaume 84 qui dit qu'en fait, heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel et ceux qui se confient en lui, parce que ceux-là, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, il a dit, ces chemins qui sont dans nos cœurs, c'est simplement des portes que nous devons ouvrir, ok, à l'action de Dieu dans notre vie. Et donc, il m'a demandé de reformuler ce thème en disant que ce sont des portes. Donc, quand je parle de chemin, je parle des portes. Et nous avons lu l'histoire de Naaman, qui était Syrien, chef de l'armée de la Syrie, et qui, en fait, avait la lèpre. Et c'est notre texte de base. Nous allons continuer avec ce thème pour terminer cet enseignement aujourd'hui, cette partie de l'enseignement aujourd'hui. Et nous allons ressortir des principes clés qui vont nous expliquer pourquoi Naaman a été guéri. La Bible nous a révélé que Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain. Et ça nous permettra de comprendre pourquoi Naaman, pourquoi il était nécessaire que Naaman plonge 7 fois dans le Jourdain avant d'être guéri. Et donc, parlant des portes, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur d'intituler ce message simplement « Les 7 portes de la guérison de Naaman ». Les 7 portes de la guérison de Naaman. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 20. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 20. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait d'une faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, les troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre qui s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ?» Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc à moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Dama, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Il fut pur. il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque c'est non permis que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai devant le temple de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Il le quitta et parcourut une certaine distance. On va s'arrêter là, le verset 20, on le lira après, vous comprenez pourquoi. C'est une longue histoire, mais très riche d'enseignements. Alléluia. Lorsque nous voyons cette histoire, apparemment, on se pose des questions, il y a des choses bizarres. Naaman, il est lépreux, il est chef de l'armée, et on lui demande de plonger 7 fois dans le Jourdain. Le premier verset qui m'a le plus frappé ici, c'est les versets 2 à 3. Ça va être la première clé que j'aimerais ressortir ce matin. La Bible déclare qu'il y avait une jeune fille qui avait été ramenée captive d'Israël. Lorsqu'il y a eu une guerre entre la Syrie et Israël, la Syrie donc a ramené d'Israël une jeune fille qui était esclave dans la maison de Naaman. Alors cette jeune fille connaissait qu'en Israël, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée, et qui en fait avait reçu la double portion de l'onction d'Élie. Est-ce que c'était la double onction? Non. La Bible déclare qu'il avait reçu, il avait demandé et il avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Alléluia! C'est différent. Parce que l'esprit, c'est la personnalité de quelqu'un, c'est son caractère, c'est sa nature, avec toutes ses valeurs, avec vraiment tout ce qui fait sa force. Or, l'onction, c'est une partie de sa personnalité divine. Et la Bible déclare que Élisée avait reçu d'Élie la double portion de son esprit. Et la jeune fille connaissait qu'en Israël, il y avait un homme qui s'appelait Élisée, qui avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie et qui était capable de faire des miracles 2 fois plus qu'Élie. Et elle dit à la femme de Naaman, elle dit, « Si mon Seigneur était en Israël, et qu'il était auprès de ce prophète qui est Élisée, l'homme de Dieu le débarrasserait de sa lèpre. » Cette fille, Dieu l'a utilisée dans la maison de Naaman pour apporter une bonne nouvelle, pour apporter une parole, pour apporter un message, pour apporter une parole qui vient de quelque part. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a utilisé la bouche de cette jeune fille, car la Bible déclare que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu fonde sa gloire. Alléluia. Et Dieu s'est servi de cette jeune fille. La Bible déclare que dans les derniers temps, Dieu reprendra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle était en train de faire en ce moment? Elle était simplement en train de prophétiser. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle apportait une parole, une bonne nouvelle, un message de la part de Dieu pour la famille de Naaman. Et le premier principe que je m'étais ressorti ici, c'est qu'en fait, cette jeune fille était une voix prophétique pour la maison de Naaman. Alléluia! Le premier principe, la guérison, la première porte qu'il faudra ouvrir et que Naaman a ouverte ici, dans sa maison, c'est la porte prophétique. Et la porte prophétique ouvre la porte de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole prophétique. Alléluia! Alléluia! Dieu se sert de cette jeune fille pour parler au cœur de la femme de Naaman, pour parler au cœur de Naaman, parce que la même parole qu'elle a donnée à la femme de Naaman va être répétée à Naaman et elle va produire le même effet dans le cœur de Naaman. La Bible déclare que la parole de l'Éternel ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pour quoi elle a été libérée. Alléluia! Sans avoir accompli son effet. Et l'effet que la parole de Dieu a accompli dans le cœur de Naaman et de sa femme ici, c'est qu'elle a suscité la foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous pouvons obtenir les choses de Dieu que par le moyen de la foi. La foi est la main qui nous permet de prendre les choses qui sont dans l'invisible pour les amener dans le visible. Et c'est pourquoi la première porte que j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à ouvrir dans nos cœurs, c'est la porte de la foi. C'est la porte de la foi. Parce que sans la foi, tu ne pourras pas recevoir la guérison. Quand on a prié pour toi tout à l'heure, tu ne pourras pas recevoir la guérison. Et nous avons vu que durant toute la vie de Jésus, la Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades. Et à chaque fois, il disait, ta foi t'a sauvé. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu la foi. Parce que vous avez déjà la foi. Vous avez la foi. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez la foi. Le problème, c'est qu'en fait, on attend d'avoir une grande foi pour être sauvé. Or, la Bible déclare que si tu as la foi comme un grain de sénévé, une petite foi comme un grain de sénévé, tu diras à ce sycomore, à cette montagne, ôte-toi de là et se jetera à la mer. Le problème, ce n'est pas d'avoir une grande foi ou une petite foi. Le problème, c'est en fait de libérer ta foi à l'action de Dieu dans ta vie. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont la foi dans leur cœur, mais cette foi, en fait, il y a un obstacle devant leur foi. Et donc, quand on prie pour les personnes, en fait, dans leur cœur, elles ont la foi. Avoir la foi, c'est un fait. Mais faire agir la foi, c'est un autre fait. Parce qu'elle déclare que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Et la foi qui est libérée dans notre cœur, lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur, nous ouvrons la porte de la foi, c'est ce qu'on appelle la foi agissante. Et c'est la foi agissante qui déclenche l'action de Dieu du Saint-Esprit dans notre cœur et qui opère le miracle, alléluia, dans notre vie. Mais si nous restons les cœurs fermés, endurcis, le miracle ne viendra pas. Et le grain de blé restera au-dedans de nous. Or, la vie est dans le grain. La vie est dans le grain. Et bien, que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Et nous avons vu la dernière fois, le dimanche dernier, qu'en fait, notre esprit en lui contient la vie de Dieu. Parce que le jour où nous avons reçu Christ comme notre Sauveur et Seigneur, Jésus est venu dans notre cœur. Mais il n'est pas venu en chair et en os comme il a marché sur la terre. Il a dit, moi, je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Lui, là, il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et le jour où tu as dit, Seigneur, comme Apocalypse 3, 20 le dit, tu te tiens à la porte, tu frappes, Seigneur, j'ouvre mon cœur, viens à mon cœur, je te reçois comme sauveur, Seigneur. Jean, chapitre 1, verset 12 a dit, celui qui croit et qui reçoit et devient enfant de Dieu, Seigneur, je te donne mon cœur, prends mon cœur. Et ce jour-là, quand tu as fait cette prière de repentance, tu as ouvert ton cœur à Christ, Christ est rentré dans ton cœur, il est rentré dans ton esprit. Ton esprit était mort, a repris vie, il est ressuscité en Christ Jésus. Et la Bible déclare que ce jour, tu as été gratuitement justifié par le sang de l'agneau, de tous tes péchés passés et de tous les péchés de tes ancêtres. Tu as été purifié. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu dans ton esprit. Tu as été né de l'Esprit. Alléluia. Et donc, ton esprit a repris vie. La vie de Dieu est rentrée dans ton esprit. La vie est dans ton esprit. Alléluia. Et Jésus a dit sur la croix, il a dit, maintenant, Père, tout est accompli. Alléluia. La Bible déclare que par les maîtrises de Christ sur la croix, nous sommes guéris. Alléluia. Et ce jour, sur la croix, Christ a brisé le pouvoir du péché. Il a brisé le pouvoir de la malédiction. Il a brisé le pouvoir de la maladie et il a dit, maintenant tout est accompli, soyez guéris, alléluia, soyez guéris dans le nom de Jésus, alléluia. Et ce jour, Christ a libéré la vie dans ton esprit, et la vie est dans ton esprit, et la puissance est dans ton esprit, et la guérison est dans ton esprit. Et elle déclare que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, qu'on prospère dans notre âme et que nous soyons en bonne santé. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que cette guérison qui est dans ton esprit là, pour qu'elle arrive dans ton corps, elle arrivera en fonction de l'état de ton âme. Alléluia. Or, Dieu veut que ton âme soit dans quel état? Prospère. Alléluia. Prospère, dites prospère. Prospère, dites prospère. Tu vas prospérer, alléluia. Si tu prospères, si ton âme prospère, tu vas prospérer. Si ton âme prospère, tu vas être guéri. Si ton âme prospère, tu vas être élevé sur le plan social. Pourquoi? Parce que la vie est dans l'esprit. La bénédiction est dans l'esprit. La guérison est dans ton esprit. La puissance est dans ton esprit. Maintenant, en fonction de l'état de ton âme, l'âme, en fait, c'est comme, c'est un traducteur, l'âme. C'est comme, vous voyez, vous avez le lecteur DVD,
chez vous et vous avez en fait un DVD. Vous prenez le DVD, vous le mettez dans le lecteur. Qu'est-ce qui se passe pour que en fait vous puissiez écouter la musique ou le son qui est dans le DVD? Il faut en fait que le lecteur DVD fasse une opération de lecture sur le DVD. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand il va lire ton DVD, il va te restituer le son, le contenu. Notre esprit est exactement pareil. C'est-à-dire que notre esprit a la vie en nous. Notre esprit a tout. C'est comme le DVD. Maintenant, l'âme, en fait, c'est le lecteur qui va lire ce qu'il y a dans l'esprit et qui va transférer ça dans notre corps, nos oreilles. Alléluia! Notre physique. Alléluia! Alléluia! Maintenant, si le lecteur DVD n'est pas en bon état, il ne pourra pas lire le DVD. Alléluia! C'est ainsi les choses de Dieu. La Bible dit que tu seras en bonne santé selon la prospérité de ton âme. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme qui soit en bonne santé. Ça veut dire qu'en fait, tu seras en bonne santé en fonction de l'état de ton âme. Si ton âme est en bon état, comme le lecteur DVD est en bon état, alors il prendra la guérison qui est dans ton esprit et va la transférer dans ton corps. Et tu recevras la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia! Si ton âme est en bon état, en prospérité, il prendra la bénédiction sociale, l'élévation dans le travail, la bénédiction dans les affaires qui se trouve en ce moment dans ton esprit, le potentiel qui est dans ton esprit, il va le transférer dans ton corps. Et tout ce que tu vas toucher sera béni. La Bible déclare qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Alléluia! Les gens se disent, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, mais je fais des choses, ça ne marche pas. C'est comme des blocages. J'aimerais un peu savoir si, dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un en fait qui me bloque. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a maudit. Non, personne ne t'a maudit, frère. Christ s'est fait malédiction à ta place à la croix. Tu es déjà libéré. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en fait, si la vie qui est dans ton esprit ne coule pas jusqu'à ton corps, dans tes mains, tout ce que tu vas toucher sera comme l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas prospère, si tu touches, les choses ne vont pas prospérer. Tu touches de l'argent, ça coule, comme s'il y avait un trou. Pourquoi? Parce que dans ton âme, il y a un trou. Un jour, mon père est allé voir des charlatans avant qu'il ne soit chrétien. On lui a dit, parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, il était maçon. Il avait des chantiers incroyables, entrepreneur. Et chaque fois qu'il allait voir un charlatan, tous les charlatans, en fait, comme c'était les mêmes démons, vous comprenez, hein? Ils étaient tous en conférence. Et donc, chaque fois qu'il allait voir un charlatan, on lui disait, vous avez un trou, tu as un trou dans ta main. Quand tu attrapes l'argent, ça coule. En fait, le trou n'était pas dans sa main, le trou était dans son âme. Tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc change d'abord ton être intérieur et ensuite ton monde extérieur va changer. Alléluia. Change ton monde intérieur et ensuite ton monde extérieur va changer. Alléluia. Et la foi vient dans l'âme. Pourquoi? Parce que Proverbe 20 dit, le souffle de Dieu descend dans nos entrailles. Donc en fait notre souffle c'est quoi? C'est l'esprit. Les entrailles c'est ici. Donc notre esprit se trouve ici. Maintenant, l'âme se trouve où? L'âme se trouve dans la pensée. C'est ici, la pensée. L'âme se domaine de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments. C'est ici, l'âme. Donc, si là-dedans, ça ne va pas, ta vie est gâchée. Remarquez bien les gens. Quand il y a les soucis là-dedans, dans la tête, vous pouvez facilement reconnaître quelqu'un qui a des soucis. Quand il marche même déjà, vous sentez même la démarche, là, c'est compliqué. Quand la personne s'habille même, vous voyez même dans son expression vestimentaire, Vous comprenez qu'elle a, tout de suite, vous comprenez qu'elle a des problèmes. Vous voyez sa coiffure, vous comprenez que non. Elle n'a même pas eu le temps le matin vraiment de... Elle est dans un autre monde, la personne. Vous savez pourquoi moi je m'habille toujours en costard tout ça? C'est l'état de mon âme. Et j'aime bien voir quand les gens sont bien habillés. Alléluia. Il y a souvent des frères ici, des frères, tu es bien habillé. Je suis content parce que cela reflète l'état de son âme. Alléluia. Quand tu as la joie, mais ça se voit extérieurement. Alléluia. Alléluia. Quand tu es triste, ça se voit. C'est l'état de ton âme qui conditionne ta vie. En fait, ton succès, ta prospérité, ta réussite, ton élévation sociale sera fonction de l'état de ton âme. Alléluia. Et tout cela, c'est toi qui dois décider aujourd'hui. Et c'est la foi. C'est ça la foi. La foi est une décision. La jeune fille esclave avait prononcé des paroles prophétiques. C'est ces paroles qui sont venues de Dieu, qui ont suscité la foi dans le cœur de Naaman. Et Dieu, aujourd'hui, je vais terminer avec ce point, cherche une génération d'hommes et de femmes prophétiques, qui parlent de façon prophétique, qui prient de façon prophétique, qui agissent de façon prophétique. Pourquoi? Parce que le monde entier attend avec un avant-désir la révélation des fils de Dieu. Le monde veut voir, il veut entendre autre chose. Le monde est fatigué d'entendre des mauvaises nouvelles. Oh, chaque jour à la télévision, on écoute que des mauvaises nouvelles. La guerre en Irak, la guerre au Liban avec Israël, la guerre par-ci par-là, les problèmes par-ci par-là, les problèmes économiques, les problèmes de société, les enfants abandonnés dans la rue, les femmes qui avortent, les femmes qui ont des problèmes, qui sont abandonnées par leur mari, des divorces, des déchirures de couple. Le monde nous diffuse chaque jour les informations qui infectent et qui affectent notre conscient et notre subconscient. Et nous sommes tous aujourd'hui conditionnés par l'information. Et c'est pourquoi mon épouse, Pasteur Nina, disait, l'information est importante parce que celui qui a l'information a le gouvernement. L'information élève et donne du pouvoir. Or, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui n'ont pas de bonnes informations. Voilà pourquoi ils ont le pouvoir sur nos consciences, ils ont le pouvoir sur nos âmes, parce qu'en fait, ce sont des prophètes de malheur. Ils nous prêchent au travers des médias, de la télévision, des choses qui affectent notre esprit. Et ils nous gouvernent par l'information. Et ils conditionnent nos vies. Nous sommes négatifs. Et le monde aujourd'hui a besoin de notre message. Alléluia. Le monde a besoin d'entendre autre chose. Le monde veut entendre d'autres paroles. Le monde veut entendre d'autres mots qu'échec, que déception, que divorce, que mort. Le monde veut entendre vie. Dites vie. Le monde veut entendre guérison. Le monde veut entendre prospérité. Le monde veut entendre bénédiction. Le monde veut entendre élévation. Le monde veut entendre bonne santé. Le monde veut entendre fertilité. Le monde veut entendre fécondité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le monde a besoin d'une génération d'hommes et de femmes qui marchent et qui parlent de façon prophétique dans le but de susciter la foi dans les cœurs. Jésus dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Naaman est parti sur cette parole rencontrer Élisée. Élisée est un homme qui aime le chiffre 7. Vous savez pourquoi? Parce qu'au chapitre 4, quand vous lisez, avant de rencontrer Naaman, Élisée a rencontré la Tsunamite. Et la Bible déclare qu'il a envoyé son serviteur Géasi pour aller guérir l'enfant. Parce que quand elle a perçu la Tsunamite venir, elle dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Elle dit, tout va bien. En fait, elle avait reçu une parole. Son objectif, c'est de rencontrer Élisée. Élisée a envoyé Géasi, son serviteur. L'enfant n'a pas été ressuscité. Mais la Bible déclare que quand Élisée est venu, il est rentré à la maison, il a fermé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a éternué 7 fois. Alléluia! L'enfant a éternué 7 fois. Juste après cet événement, au chapitre 5 maintenant, il rencontre Naaman. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, va te plonger 7 fois. Dites 7 fois. Dites 7 fois. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la divinité. C'est le chiffre parfait. Mais remarquez bien que Élisée ne va pas recevoir Naaman vis-à-vis. Il va rester dans sa maison. Naaman se tient devant la porte d'Élisée. Il attend. Élisée ne sort pas. Pourquoi? La Bible déclare qu'il faut que je disparaisse et que Christ apparaisse. Alléluia! Il faut que je disparaisse et que lui seul apparaisse. C'est quand le Fils de l'homme sera élevé qu'il attirera de grandes foules. Il faut que moi je diminue, que je disparaisse et que lui croisse, qu'il apparaisse. Élisée s'est humilié devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de faire, Élisée? Il n'était pas en train de manger le fromage camembert ou le foie gras dans la maison. Il n'était pas en train de manger un beefsteak saignant. Vous comprenez? Avec un petit verre de pinard à côté. Non. Élisée n'était pas en train de se distraire. Détrompez-vous, s'il vous plaît. On va le voir tout à l'heure. Il dit bien, Élisée. Il dit, quand Naaman veut lui offrir le cadeau, il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens. Élisée n'était pas en train de faire n'importe quoi. Il se tenait devant l'Éternel. Il était la face contre terre, le genou au sol. Il était en prière. Dieu a besoin d'hommes et de femmes, d'une génération d'hommes et de femmes de prière qui ouvrent les portes de ceux qui font descendre l'onction sur la terre. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Naaman, il va se fâcher. Parce que Élisée va lui dire, il va te plonger cette fois, il va envoyer ses serviteurs, il va te plonger cette fois. Naaman dit, au verset 11, il dit, voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il fera passer sa main, il prendra un petit bout de pagne, il m'attachera à la main, et il attachera l'autre pas au pied, au talon, et il prendra un peu de mes ongles, il mettra dans un petit pagne noir qu'il va envelopper et m'attachera cela au cou, il prendra le chevet du crâne, le chevet de la colonne vertébrale, c'est pas comment dire, l'os de la colonne vertébrale, il va mélanger avec quoi, il va mettre quelque part et il va cacher dans la forêt, alors ainsi je serai protégé et délivré. Alléluia. Il viendra vers moi et prendra un petit flacon d'huile qu'il versera devant la porte de ma maison, qui va asperger sur les murs. Il prendra la Bible Thompson, la dernière version, qu'il passera, il ouvrira, il passera devant la porte de ma maison afin de faire partir les sorciers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me suivez? Et Naaman avait un système de pensée. Naaman avait un système, un schéma de pensée, une façon de concevoir les choses spirituelles, une façon de concevoir sa guérison. Voyez-vous, Naaman était un petit peu comme Zachée, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Parce que nos pensées sont comparées dans la Bible à un sycomore. On a vu dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, qu'il y a des hauteurs dans nos pensées qui s'élèvent comme la connaissance de Dieu. Et Zachée était perché sur une hauteur. La Bible déclare que le sycomore était un arbre qui poussait en fait au départ en Égypte et qui a été retrouvé par la suite en Israël. En fait, selon moi, je crois que c'est quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et la Bible déclare que ces semences de certaines plantes qui sont retrouvées en Israël. Ça, c'est selon moi. D'accord ? On l'a retrouvé donc cet arbre dans plusieurs régions d'Israël, dont notamment en Jéricho. Et l'arbre en question a été planté le long des rues. Comme par exemple en ce moment, pour faire un peu de l'ombre, vous voyez des arbres au long des rues. Et cet arbre mesurait 7 à 18 mètres de long et 18 mètres de large. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'en fait, Zachée, comment il a fait? Comme je disais la dernière fois, est-ce qu'il a pris un échafaudage? Comment il a fait pour grimper sur cet arbre? Mais ça nous révèle en fait la hauteur. Et il s'est perché là-dessus pour vouloir voir Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font la même chose. On se perche sur nos pensées, nos conceptions, comme Naaman, pour vouloir voir Jésus agir. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Descends de ton sycomore, à Zachée. Qu'est-ce qu'il a dit à Zachée? Descends de ton sycomore. Et ce matin, Dieu te dit la même chose. Comme il a dit à Zachée, descends de ton sycomore. Parce qu'il y a des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Tant que tu es sur ces hauteurs, tu ne peux pas. Naaman était sur ces hauteurs avec ses chars. Chez vous, il arrive. C'est moi, Naaman, chef, capitaine de l'armée de Syrie. Je me présente. Et il attendait peut-être que l'homme de Dieu fasse oui, mon colonel. Devant la porte, tenter de l'attendre. Si on ne descend pas de nos pensées, de nos sycomores, la guérison ne viendra pas. Et c'est pourquoi je disais, par rapport à ce deuxième point, il nous va ouvrir la porte de nos pensées humaines. Parce que la pensée humaine est un obstacle à l'action de Dieu dans notre vie. Car vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible déclare qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et Jésus dit, arrête-moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, les pensées des hommes. Parce que les pensées des hommes sont les mêmes pensées que Satan. Donc nous devons ouvrir la porte de nos pensées humaines pour laisser rentrer l'action de Dieu. Afin que Dieu agisse, pour laisser la pensée de Christ nous pénétrer. Et c'est cette pensée de Christ, quand elle va rentrer en nous, elle va produire en nous la foi, et la foi va faire jaillir la guérison. Car c'est la prière de la foi qui sauvera le malade.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La troisième porte qu'il faudra ouvrir, bien-aimé, c'est la porte de l'humilité. Je l'ai dit tout à l'heure, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, si Élisée ne s'était pas humilié devant la face de l'Éternel, Naaman ne serait pas guéri. Naaman n'aurait jamais été guéri. Mais il y avait une porte qu'il fallait ouvrir pour la guérison de Naaman. Il fallait que le serviteur de Dieu s'humilie. Il fallait également que Naaman s'humilie. Parce que le fait de rentrer dans l'eau avec tout son arsenal, parce que la Bible déclare, n'a pas dit qu'en fait Naaman a enlevé sa tenue de militaire. C'était assez humiliant pour Naaman. Et parfois on vous demandera de faire des choses bizarres pendant l'exercice du ministère, la guérison. Si tu te mets à genoux, ne te dis pas, mon costume vraiment, ce matin il est tellement bien repassé. Ce sont des pensées humaines, il faut les mettre de côté. Revêtons-nous des pensées d'humilité de Christ. Quand nous venons recevoir la guérison ou un miracle, nous voulons quelque chose de la part de Dieu, nous devons nous revêtir de sentiments d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et ce matin, bien aimé, nous allons prier avec toi. Moi je suis convaincu que tu seras guéri. Mais s'il y a de l'orgueil dans ton cœur, s'il y a un manque d'humilité, et bien que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il a fallu que Naaman descende de ses chars, comme Zachée descendu de son sycomore. Il a fallu qu'il plonge dans le Jourdain. Alléluia. Il a fallu. Et vous savez, Jésus faisait parfois des choses bizarres. Regardez un peu. Il va dire à un jeune homme aveugle, qui était né aveugle, on lui pose la question, mais cet homme-là, ce jeune homme-là, pourquoi il est malade, pourquoi il est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou est-ce que c'est un problème des ancêtres? Quel est le problème? Jésus dit, le problème n'est pas là, le problème c'est en fait que le nom de Dieu soit glorifié. Et qu'est-ce qu'il va dire à l'enfant? Il va dire, il va cracher à terre, il va faire de la boue avec la terre. Suivez-moi bien aimé, il va faire de la boue avec la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre cette boue sur les yeux du jeune homme. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, va te laver à la piscine de Bethesda. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau est le symbole du Saint-Esprit. La terre, c'est quoi? La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris quoi? Il a pris la terre, il l'a formée. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Qu'est-ce qu'il a soufflé? Le souffle, l'esprit. La terre, la piscine de Bethesda. Vous ne me suivez pas encore, on dirait. Mais ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? L'enfant n'avait plus de yeux. Complètement. Les yeux étaient complètement pourris. Donc on ne pouvait plus prendre ses yeux et les restaurer. Ce n'était plus possible. Donc, qu'est-ce qu'il avait besoin, ce jeune homme? Il avait besoin d'un miracle. Mais quel type de miracle? Il n'avait pas besoin d'un miracle de guérison. Il avait besoin d'un miracle de création. Alléluia! Alléluia! Il avait besoin d'un miracle de création. C'est pourquoi, pour ce cas bien précis, Jésus a pris la terre et il a envoyé la piscine de Bethesda, donc l'esprit. Parce qu'en fait, il avait besoin de recréer les yeux de l'enfant. Alléluia! Il avait besoin de recréer les yeux du jeune homme. Comme il a créé l'homme dans le jardin d'Éden en prenant la terre et en soufflant l'esprit dedans pour reprendre vie. C'est un miracle de création et non un miracle de guérison. Oh Seigneur, élève la connaissance dans cette assemblée. Alléluia. Élève les esprits afin de saisir la révélation de Christ. Alléluia. Je brise tout esprit de cécité spirituelle dans le nom de Jésus. Je brise tout esprit de sourdité spirituelle dans le nom de Jésus. Et j'ouvre les portes de la révélation dans les cœurs. Parce que la révélation de Dieu fait naître la foi. Vous connaîtrez la révélation de Christ et elle va vous affranchir. On va bientôt finir. La quatrième porte à ouvrir dans nos cœurs, c'est la porte de la volonté de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que la chair est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. L'eau était boueuse dans le Jourdain. Le Jourdain était un fleuve qui était en proie au mouvement des crues. Vous comprenez? Les crues, c'est quand la marée est hausse, elle est haute. Donc, chaque fois, le Jourdain avait ce problème-là. OK? Il y avait toujours des crues. Donc, quand il y a la crue, en fait, l'eau
va racler dans les bords des rives tout ce qu'il y a comme herbe, la boue et tout ce qu'il y a comme saleté qui traîne dans l'air. Et ramène ces choses-là dans le fleuve. Et l'eau était rougeâtre. Quand elle a cru, l'eau est rougeâtre, c'est pas propre. Et qu'est-ce que Élisée dit à Naaman? Il dit, va te plonger cette fois. Et c'est pourquoi Naaman dit maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de fleuve en Syrie qui soit plus propre que cela pour qu'il me demande de venir me plonger? C'est incroyable. Il voit que l'eau est rougeâtre, elle est boueuse, il me demande de rentrer dedans. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, Naaman est un homme ordinaire. Hein? Tout homme ferait pareil. La preuve, même l'apôtre Pierre, il a fait pareil. Quand l'apôtre Pierre va chez Corneille, Dieu se révèle à l'apôtre Pierre, il lui montre une nappe avec des sauterelles, ok, dans Actes chapitre 10, versets 1 à 14, vous lirez cette histoire, ok, on va la lire ensemble, Actes chapitre 10, versets 1 à 14, vous allez comprendre que Naaman était un homme ordinaire, l'apôtre Pierre a réagi pareil. Il y a des choses bizarres, Dieu fait des choses bizarres. Comment il demande de faire ça? Ça dépasse notre entendement, notre raisonnement. Et c'est normal que la chair puisse réagir et ne soit pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. Actes, chapitre 10. Alors, on va tronquer les versets. Au verset 11, la Bible déclare qu'il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Il y se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Une nappe avec les quadrupèdes, les oiseaux du ciel, donc vivant. Dieu lui dit, regarde ça, Pierre, tu vois? Pierre dit, oui Seigneur, je vois. Allez, mange, tue et tu manges. Oh Seigneur, sans cuisson, sans ingrédients, sans condiments, il n'y a pas de tout ça, mange maintenant. Pierre dit, c'est pas possible. Pierre dit non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. En fait, c'est la leçon que Dieu est en train de donner à Naaman. L'eau est boueuse, c'est vrai. Elle est rougeâtre, c'est vrai. Et elle a cru, c'est vrai. Elle est saletée, c'est vrai, là-dedans. Mais plonge. Mais il y a des fleuves plus purs, qui sont plus propres que cela en Syrie. Plonge. Parfois, la volonté de Dieu est difficile et amère à avaler. Parce que Dieu ne fera pas toujours, ne demandera pas toujours de faire des choses qui nous font plaisir à nous. Mais notre capacité à obéir à la volonté de Dieu va ouvrir les portes du miracle dans notre vie. Et nous recevons le miracle. Cela est valable pour la guérison, cela est valable pour la bénédiction dans tous les domaines, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, à tous les niveaux, sur le plan ceux qui ont besoin d'enfants, à tous les niveaux. Le principe le même, l'obéissance, ouvre les portes du ciel sur la vie de l'homme. L'avant-dernier point, la porte des eaux. J'appelais ça ainsi, la porte des eaux. Les eaux, l'eau. La Bible déclare que Naaman va plonger dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, c'est le fleuve du baptême. Jourdain, c'est le fleuve du baptême. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste a exercé son ministère là, dans le Jourdain. Les gens venaient se faire baptiser au Jourdain. C'est le symbole de la repentance. C'est le symbole de la conversion. C'est le symbole de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et la Bible déclare que Naaman devait plonger dans ce Jourdain. Pourquoi Dieu demande de plonger dans le Jourdain? Pour laisser sa nature ancienne, sa vie ancienne, et ressusciter avec Christ pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Je pensais que vous devez acclamer le Seigneur. Si vous étiez né de nouveau. Alléluia. Je sais pas, j'espère que c'est pas trop fort ce que je vous dis, hein. Les sept portes de la guérison de Naaman. Si vous saisissez ces vérités spirituelles dans votre vie, ça ce n'est que le cas de Naaman. C'est pas tout qu'il y a comme principe dans la Bible. Là, il n'y a que sept qui concernent le cas de Naaman. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, que vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, recherchez le baptême d'eau. Je vous le conseille. Quand je prépare ce message, la pensée est venue fortement dans mon esprit. Les gens doivent être baptisés. Et le verset qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est imprimé dans mon esprit. Il est important que vous puissiez prendre le baptême, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le baptême n'est pas seulement un acte symbolique humain qu'on voit comme ça, c'est vrai. Nous témoignons. Et la Bible déclare que c'est important. Pourquoi? Parce que ça a une grande portée spirituelle, puisqu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. J'ai vu des gens, on a baptisé des personnes, j'ai vu des gens, des hommes et des femmes qui étaient malades, qui sont rentrés dans les eaux de baptême, et à l'instant ils sont sortis des eaux de baptême, ils ont été guéris. Le baptême est une puissance, bien aimé. Le baptême a une grande portée spirituelle. Et il est important que le peuple de Dieu soit enseigné sur la portée spirituelle du baptême d'eau. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême, l'eau, c'est le symbole de la purification de nos consciences et de nos pensées. La Bible déclare que nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Par quoi? Par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole. Et l'eau du baptême symbolise l'eau de la parole. Et l'eau de la parole, c'est l'eau du Saint-Esprit qui est l'esprit de la parole. Et personne ne peut comprendre les Écritures s'il n'a pas été lavé par l'eau du baptême. L'eau de l'esprit. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus va dire, baptisez-leur d'abord et ensuite enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Parce que si vous enseignez avant, ils ne pourront pas comprendre la révélation des Écritures. Car personne ne peut comprendre les Écritures si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et comme ils n'ont pas encore été lavés par l'eau, ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Excusez-moi, je ne suis pas évangéliste, je suis docteur. Alléluia, j'enseigne. Je vais faire rentrer les gens dans la dimension de l'enseignement dans cette assemblée parce qu'elle est bien que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et si vous aimez la connaissance, dites alléluia. Il n'y a pas beaucoup qui aiment la connaissance ici, hein? Si vous aimez la révélation, dites gloire à Jésus. Ne comptez pas sur moi pour faire de vous des consommateurs absolus. Ne comptez pas sur moi pour faire de vous des personnes mendiantes des bénédictions de Dieu. Moi, je veux faire de vous des gens qui savent eux-mêmes pécher. Et bien, pas la Bible, mais un proverbe chinois qui dit « Mieux vaut apprendre à quelqu'un à pécher que de donner tous les jours du poisson. » Moi, je suis enseignant. Je vais vous conduire aux sources des secrets pour votre vie. L'évangéliste, quand il prêche, il vous donne du poisson. C'est un pécheur. Il pêche. Pas le péché, mais comme Pierre. Alléluia. Il lance le filet. Donc lui, c'est le poisson qui l'intéresse. Jésus guérit. Vous recevez l'onction, vous tombez. Ça, c'est l'évangéliste. Mais après, il est parti. Et après, vous restez vous-même. Si vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez même pas entretenir la guérison que vous avez reçue au travers de l'évangéliste. Et moi, je suis là pour asseoir les doctrines, pour asseoir l'enseignement, afin que vous ayez les bases solides, que vous-même, que l'évangéliste soit là, que le prophète soit là, que le pasteur soit là, que vous soyez capable de déclencher le miracle dans votre vie. Ça, c'est mon but et mon rôle dans cette assemblée. Alléluia. Et je suis là pour cela. Et je m'attellerai à cette tâche jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que je vais vous élever dans la connaissance. La Bible dit que celui qui aime la connaissance mangera de son fruit. Aimez la connaissance. Dis à ton frère, aime la connaissance. Dis à ton frère, aime la connaissance. Aime le livre. Mais parfois le livre est difficile à avaler. Parce que quand vous lisez Ézéchiel, vous comprenez, parfois le livre est amer. Mais il dit quand même avale, 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 avale. Dis avale. Mange. Mange. Avale. Mâche, mâche, mâche. Parfois c'est dur, mais mâche. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Woo! Gloire à Jésus. On va terminer avec le dernier point. Alléluia. Merci Seigneur. La porte de la reconnaissance. Vous savez, Naaman, après avoir, la Bible, quand il a plongé sept fois, quand il est sorti là, il a été guéri. Sa, sa peau est devenue saine comme celle d'un jeune garçon. Il a retrouvé une nouvelle jeunesse. Waouh! J'imagine sa femme qui l'a vu. Waouh! Oh, c'est mon mari ça? Oh, chérie, comme au premier jour. Oh! Une nouvelle jeunesse. Oh! Même si depuis longtemps on avait oublié les bisous. Oh, chérie! Nama a dû être étonné, mais qu'est-ce qu'il a pris aujourd'hui? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose de nouveau. S'ils avaient des problèmes dans le couple, ce jour-là, tous les problèmes sont réglés. Oh! Une nouvelle jeunesse. En fait, une nouvelle jeunesse, ça veut dire une nouvelle beauté. Alléluia! Nama était redevenu beau. Vous imaginez quelqu'un de cet âge-là, avec la peau d'un jeune garçon. Il y a une soeur en Christ qui nous a rendu un témoignage. Elle dit qu'elle était recouverte de la gale partout sur le corps, mais au visage. Et c'était difficile pour elle, elle ne pouvait pas sortir, elle avait honte. Elle ne pouvait même pas venir à l'église. Et puis les serviteurs lui ont prié pour elle. Le miracle s'est accompli, il y avait un démon qui était là. Il a été délogé. Parce qu'il y a des maladies qui sont détenues par des esprits mauvais. Ok, ça c'est important. Des esprits qui se cachent derrière. Donc, c'est une malédiction, un mauvais sort qui avait été jeté sur son corps. Pour qu'elle ne puisse pas se marier. Que les hommes ne puissent pas s'intéresser à elle. Et quand elle a été délivrée de cet esprit, elle lui dit que sa peau est devenue saine comme la peau d'une jeune fille. Alléluia. Comme la peau d'une jeune fille. J'imagine les frères en Christ à l'église, ça devait être. Oh. Frère. Oui, attends d'abord. On dirait qu'il y a une nouvelle soeur. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais c'est la soeur Agathe. Ah bon? Mais c'est moi. Ah, c'est toi? Ah d'accord, je crois que c'était une nouvelle soeur. Mais en fait, le frère a des problèmes, quoi. Alléluia! Et Naaman, c'était sa soeur. Il était pareil. Sa peau est devenue saine comme un jeune homme. Mais qu'est-ce que Naaman a fait? Il a dit non. Ça, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Il repart vers Élisée. Il dit non, finalement, ton Dieu là, c'est vraiment le véritable. Et dès aujourd'hui, je crois maintenant que c'est le Dieu d'Israël qui est le véritable. Maintenant, je vais t'offrir à toi, Élisée, un cadeau. Mais Élisée va refuser le cadeau. Moi, je vous pose une question. Est-ce que Élisée a refusé l'offrande? Suivez-moi, on est au dernier point, on va finir. Est-ce que Élisée a refusé l'offrande de Naaman? Alléluia. Deux Rois, chapitre 5. On va lire à partir du verset 16. On va bien lire à partir du verset 15 pour bien comprendre le contexte. Il dit, il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux, qu'à l'Éternel. Il y a deux choses ici. Il y a le cadeau offert à Élisée et il y a les sacrifices et les offrandes offertes à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élisée a refusé le cadeau, mais il a accepté que Naaman aille offrir un sacrifice à l'Éternel. Et dans le verset 20, la Bible déclare que Géasi, le malin, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit, voici mon Seigneur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Élisée a refusé le cadeau. Pourquoi? Parce qu'elle déclare que les présents aveuglent les justes. On n'achète pas les faveurs de Dieu avec un homme de Dieu. Par contre, il a accepté, il a dit va en paix à Naaman, parce que Naaman a finalement compris qu'il fallait qu'il aille au temple pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Et là, Élisée a accepté cet acte. Il a dit, va en paix. Pourquoi? Parce qu'en Israël, chaque fois qu'un lépreux était purifié, était guéri de sa lèpre, il fallait qu'il aille au temple pour offrir un sacrifice de purification à l'Éternel. Et Naaman savait cela. Quand il a quitté la Syrie pour Israël, il s'est informé sur les lois d'Israël. et comment fonctionnaient les lois du temple, du peuple de Dieu en Israël. C'est pourquoi il a pris avec lui des pièces d'argent pour partir. Il connaissait cela. Quand vous lisez l'histoire dans la parole de Dieu, dans les évangiles, Jésus guérit 10 lépreux. Les 10 lépreux viennent. Il dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Et quand ils vont se présenter au sacrificateur, ils sont purifiés de leur lèpre. Il y a un seul qui revient vers Jésus-Christ pour lui rendre gloire. Le sacrifice de purification. Élisée n'a pas refusé le sacrifice de purification. Il a refusé le présent parce que le présent aveugle les justes. Alléluia! On n'achète pas les faveurs de l'Éternel. Mais l'attitude de Naaman était une très bonne attitude parce qu'il a été reconnaissant envers le Dieu d'Israël, pas reconnaissant envers Élisée. Et ce qu'Élisée ne voulait pas, c'est que lui, il soit reconnaissant et redevable. Et nous ne voulons pas qu'au travers de la guérison que vous allez recevoir, des miracles que vous allez recevoir dans cette assemblée, vous nous soyez à nous redevables. Non, ce n'est pas à nous. C'est à Dieu qu'il faudrait être redevable. Car c'est à lui que revient la gloire, le règne et la puissance dans tous les siècles et les siècles. Alléluia! C'est à lui qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, et non à nous. Et Élisée ne voulait pas que Naaman puisse l'idolâtrer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes idolâtrent maintenant les serviteurs de Dieu. Élisée ne voulait pas ça. Voilà pourquoi il s'est même caché. Il ne voulait pas. Parce qu'il voulait en fait révéler à Naaman le Dieu d'Israël. La Bible déclare que c'est lorsque Christ sera élevé qu'il attirera à lui des grandes foules, qui sera glorifié. Et nous, serviteurs de Dieu, quand nous prions pour les gens, notre but n'est pas de les attirer vers nous, mais on doit les montrer Dieu, le chemin de Dieu, le chemin de Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! C'est lui seul, lui, à lui seul que revienne la gloire, et non à nous. Nous sommes que les simples instruments. Ça, c'est la leçon que Élisée a voulu montrer à Naaman et à nous tous. Et Naaman est parti au temple, en paix, comme Élisée lui a dit, pour aller offrir le sacrifice à l'Éternel. Pourquoi Géasi a été puni par Dieu? Pourquoi? Parce que Géasi a détourné l'offrande de l'Éternel. La Bible dit qu'il avait déjà fait une certaine distance. Naaman avait déjà fait une certaine distance. C'est là que Géasi vient. Naaman. Alors Élisée a finalement changé la vie. Donc tu peux donner... Ah bon, oui. Il a détourné l'offrande de l'Éternel. Ça, c'est une mauvaise attitude. Parce que cet offrande devait aller dans la maison de l'Éternel. Pour la construction de la maison de l'Éternel, de son temple. Alléluia. Et nous, serviteurs de Dieu, ne sommes pas là pour vous tourner vers nous. Mais nous sommes là pour vous tourner vers l'Éternel des armées, afin que la gloire lui revienne à lui seul. Et nous servons Dieu avec crainte et tremblement, de sorte que toutes les offrandes que vous apporterez à la maison de l'Éternel soient pour la maison de l'Éternel. Et cela a été toujours ainsi depuis le commencement de cette œuvre, et cela continuera toujours ainsi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, parce que nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur. Alléluia! Donc vous pouvez nous faire confiance. Si vous faites une offrande à l'Éternel, nous la transmettrons à Dieu. Parce que notre rôle n'est pas de détourner le fond de l'Éternel. Et loin de vous ces pensées dans le cœur. Parce que ni le pasteur André ni moi ne sommes salariés dans cette église. Nous avons refusé. Nous voulons vivre par la foi et dépendre de l'Éternel. Le Seigneur pourvoit nos besoins. Alléluia. Donc apportez vos offrandes à l'Éternel avec un cœur libéré. Sachant qu'il n'y a pas de Géasi dans cette église. Alléluia. Il n'y a que des Élisée. Alléluia. Il n'y a que des Élisée. Alléluia. Il n'y a pas de Géasi. Et si le diable essaie de vous dire qu'il y a de Géasi, dites, va-t'en, Satan. Loin de moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lévons-nous, nous allons prier maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est 12h30. On va faire quelque chose de spécial. La Bible dit qu'il leur envoya sa parole. Il est guéri. La parole guérit. Qui est guéri? Qui a été guéri?